présence, le grand entretien.
Va-t-on vers une interdiction de la chasse? C'est la question que vous posez ce matin à votre invitée Isabelle.
Bonjour Thierry Cabanne.
Et bonjour madame.
Merci d'avoir accepté cette invitation que nous avions calée avant les vacances. Hein. Vous êtes président de la Fédération de chasse du Tarn-et-Garonne. Vous êtes l'un des trois vice-présidents de la Fédération nationale des chasseurs. Alors ce matin, on l'a dit, on va mettre sur le tapis cette hostilité grandissante à l'encontre des chasseurs. Mais avant cela, tout de même, un mot sur ce confinement. En quoi est-ce qu'il vient impacter la chasse, Thierry Cabanne?
Alors, c'est très important. À ce jour, la chasse au petit gibier est fermée. Tous les petits gibiers sont fermés. Le grand gibier est fermé aussi. Nous attendons des dérogations aujourd'hui du ministère afin de pouvoir pratiquer la gestion et la régulation du sanglier et du chevreuil. Dossier qui est considéré comme intérêt général parce que nous avons beaucoup, beaucoup de dégâts sur les productions agricoles et beaucoup d'accidents dans la circulation aussi.
C'est ça les conséquences si les animaux ne sont pas chassés. On va s'interroger du coup au rôle de la chasse. Quel est-il?
Ah ben là, on est en plein dedans. Hein. Si nous ne régulons pas pendant 2 mois, si on part sur un confinement de 2 mois, ça va être catastrophique au niveau de la régulation de ces populations. Dans la mesure où on ne pourra pas en diminuer le nombre, il n'y a que nous qui pouvons faire la régulation. Le sanglier n'a pas de prédateurs et le chevreuil non plus. Donc ça va devenir impossible de rouler si nous n'allons pas à la chasse. Et les agriculteurs vont être complètement dévastés. Et nous, on ne pourra pas payer, parce qu'en plus, on doit payer les dégâts. Donc, si on ne peut pas chasser et si on doit payer, nous allons avoir un problème sérieux.
Quel rapport entre le fait de payer et le fait de chasser?
Eh bien, si nous ne pouvons pas chasser, je remets en cause le paiement que nous devons aux agriculteurs. Hein. Les agriculteurs, dès qu'ils ont des dégâts sur leur culture, c'est nous qui payons intégralement l'ensemble des dégâts. Donc, si nous ne pouvons pas chasser, nous ne payerons plus.
Alors, vous avez parlé d'une mission d'intérêt général, c'est ça dont il s'agit?
Oui, le gouvernement reconnaît notre mission d'intérêt public et d'intérêt général dans la régulation de ces espèces. C'est pour ça que, avec le confinement, la chasse, bien sûr, au petit gibier, qui peut être considérée chasse loisir, va être supprimée. Mais la chasse au gros gibier, sous des contraintes, bien sûr, et c'est normal, sanitaires très strictes, nous pourrons continuer à réguler ces espèces.
Qu'est-ce que vous entendez par régulation? Concrètement, ça se passe comment? On vous donne un nombre d'espèces à tuer, c'est ça?
Alors, il y a deux cas différents. Le sanglier n'est pas soumis à plan de chasse. Chaque département et chaque chasseur, chaque équipe de chasse peut tuer les sangliers qu'elle souhaite. Par contre, pour tous les cervidés, grands et petits, le cerf et le chevreuil, c'est un nombre qui est décidé avec l'État, avec les professionnels de l'agriculture, les forestiers. Les louvetiers, c'est une commission tout à fait officielle qui décide le nombre d'animaux que nous devons prélever. Et c'est une obligation que nous avons de les prélever, parce que si nous ne les prélevons pas, nous sommes en défaut vis-à-vis de la loi.
Oui, c'est ça qui est surprenant. Vous pouvez nous donner un exemple, combien de chevreuils, combien de cervidés vous devez tuer pour le département du Tarn-et-Garonne?
Alors le Tarn-et-Garonne, on doit tuer 7500 chevreuils et 300 cerfs. Et nous prélevons 4000 sangliers.
Et alors là, nous sommes donc dans une période de confinement. Vous nous dites que le petit gibier, pour le moment, est fermé. Vous attendez des dérogations. Est-ce que pendant cette période et de façon plus générale, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que les espèces soient prélevées, soient régulées, comme vous utilisez ce mot, différemment, autrement?
Eh bien, j'attends que vous me proposiez une solution. Il n'y en a pas 50 pour réguler des sangliers, réguler des cerfs et des chevreuils. Je ne vois pas comment on peut faire sans les chasser. On a toujours pas la solution. Hein. À moins de lâcher des loups et des ours, c'est ce que veulent nos opposants. Ils considèrent que de lâcher les grands prédateurs remplacerait les chasseurs. Mais ça va être très compliqué pour nos amis éleveurs. Très, très compliqué.
Est-ce qu'on pourrait pas envisager des battues avec des gardes-chasse? Comment ça se passe hors de nos frontières? Je crois que la Suisse a essayé de mettre ça en place.
Ah oui, on a un très bel exemple sur le canton de Genève où ils ont décidé d'arrêter la chasse. Ils ont payé des brigades de tueurs qui prélevaient les animaux la nuit et ils se sont aperçus au bout de 3-4 ans que bien sûr quelques fonctionnaires n'arrivaient pas à remplacer le travail de quelques milliers de chasseurs. Donc c'est un dossier qui revient sur le tapis On ne peut pas remplacer vous imaginez 1 million de bénévoles qui vont à la chasse et qui font bien sûr d'autres choses sur le terrain. Vous pouvez les remplacer par des fonctionnaires? Impossible. En Tarn-et-Garonne, nous avons une douzaine de louvetiers. Ce sont des chasseurs mandatés par l'État pour nous remplacer. Mais 10 louvetiers ne vont pas pouvoir remplacer 7 000 chasseurs tous les week-ends. C'est impossible.
Alors, vous imaginez bien là où je veux vous emmener, Thierry Cabanne. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes président, on l'aura bien compris, de la Fédération de chasse du Tarn-et-Garonne, l'un des 3 vice-présidents de la Fédération nationale des chasseurs. Là où je veux vous emmener, c'est évidemment vers la cruauté que certains pointent du doigt concernant la chasse. La chasse à la glu a été suspendue au mois de septembre, on s'en souvient, pour cette raison. On a tous en tête aussi les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux fin septembre, de ce cerf essoufflé qui allait trouver refuge près des villes. Là, c'était la chasse à courre qui était en jeu, en cause. Sur la cruauté de la chasse, c'est la raison pour laquelle je vous amenais à vous dire, si vous avez besoin de réguler les espèces, pourquoi ne pas le faire autrement?
Alors, dans votre propos, je vois deux questions différentes. De la chasse à la glu, bien sûr que nous avons été sacrifiés sur l'autel de la politique. Par contre, les gens ne savent pas ce que c'est la chasse à la glu. Ce n'est pas un tube de colle U avec laquelle nous mettons sur une brèche pour attraper les oiseaux. C'est une chasse ancestrale qui, à partir de colle végétale, l'homme a compris qu'il pouvait attraper des oiseaux. Ces oiseaux sont bien sûr gardés, vivants, et ils servent à être appelants pour chasser d'autres oiseaux. Et en fin de chasse, ces oiseaux sont relâchés. Donc nous avons bien sûr... C'est notre faute, on n'a pas su communiquer sur ces chasses traditionnelles. Donc la chasse à la glu est une chasse complètement écologique et qui a subi, je le redis, l'arrivée de Barbara Pompili. Quant à la chasse à courre, bien sûr que vous dites que nous sommes cruels, mais la nature, elle, tous les matins, elle est cruelle. Hein. Le premier acte de la nature, il y a toujours quelqu'un qui bouffe quelqu'un. Ça, c'est très simple en forêt. La chasse à courre, le souci de la chasse à courre, c'est qu'on se sert de vidéos quand l'animal arrive en fin de chasse, quand il est épuisé. C'est un combat des chiens contre un animal, le même animal. Et effectivement, il faut que quand l'animal est épuisé, c'est les chiens qui l'attrapent et qui le tuent. Le problème de la forêt de Compiègne, c'est que c'est la ville qui est rentrée à la forêt. Le béton est rentré à la forêt et l'habitat du cerf a été complètement mité. Et effectivement, quand le cerf court devant les chiens, il peut passer dans les zones habitées. Et c'est là qu'on a des scandales. Vidéo où le cerf est dans une zone industrielle, dans une maison, dans un lotissement, bien sûr. Mais c'est la ville qui rentrait à la forêt, c'est pas les mers.
Et vous avez dit quelque chose d'intéressant, Thierry Cabanne, c'est une bataille de communication qui se joue là. Vous avez dit aussi, nous sommes écologiques, nous les chasseurs, on n'a pas réussi à communiquer là-dessus. Comment est-ce que vous, les chasseurs, vous êtes écologiques?
On n'a pas su le communiquer parce que nos prédécesseurs disaient que pour vivre heureux, il faut aller vivre caché. C'est une grande erreur. Nous faisons des actions tous les jours sur le terrain. Vous prenez que l'exemple de mon petit département. Nous plantons 15 km de haies par an. Nous restaurons une cinquantaine de mares. Nous plantons des jachères mellifères. Nous faisons plein d'actions. Donc tout ça, les gens ne le savent pas. Ils ne voient que c'est le cliché du gars des inconnus encore qui revient. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Et on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, les bénévoles que nous avons sur le terrain, ils sont tous les jours dehors. Nous sommes les seuls à être dehors toute l'année, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait beau. Et nous sommes sur le terrain et nous aménageons le terrain pour que la biodiversité se développe encore plus que ce qu'elle est.
Alors, vous avez parlé de Barbara Pompili tout à l'heure. Hein. De fait, la ministre de l'écologie vient d'annoncer l'interdiction prochaine des animaux sauvages dans les cirques ou encore la fermeture des élevages de visons pour fourrure. Ces annonces s'inscrivent dans d'autres initiatives qui émergent ici ou là. Je veux parler également du référendum d'initiative partagée d'Hugo Clément. Des initiatives qui semblent toutes aller dans le même sens, la cause animale qui prendrait, nous dit-on, du terrain. Est-ce que vous craignez, Thierry Cabanne, que la prochaine étape, ça soit l'interdiction pure et simple de la chasse?
Ah, mais c'est ce que veulent nos opposants, mais bien sûr, c'est un combat de tous les jours. Mais pour revenir sur ce dossier, l'arrivée de Barbara Pompili, ministre idéologique... Le premier, quand il y a un ministre écologique qui arrive en France, la première mesure qu'il prend pour sauver la planète, c'est d'interdire la chasse. Nous sommes persuadés qu'on peut comprendre qu'on ne soit pas aimé, mais il y a beaucoup d'autres actions à faire pour sauver la planète et sauver le climat. Ça devient, le bien-être animal est un combat de tous les jours. Et vous savez, le bien-être d'un chien de chasse, c'est d'aller à la chasse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la maltraitance animale qui est importante. Qu'est-ce qu'ils disent nos opposants là, sur la maltraitance sur les chevaux? Vous les entendez parler? Aucun article, rien. On tue les chevaux, on mutile les chevaux et personne n'en parle. Le combat que nous allons mener aussi, c'est la maltraitance animale. Ce n'est pas le bien-être animal.
Et alors, on parle de Barbara Pompili, puisque c'est votre ministre de tutelle. Et justement, il y a un paradoxe, là, Thierry Cabanaski, enfin, elle se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, puisque c'est finalement cette même ministre-là qui vous met des bâtons dans les roues? C'est ça que vous nous dites?
Ben oui, ça a toujours été ça. Imaginez un ministre des Sports qui voudrait interdire le foot ou le rugby. Ça, c'est inconcevable. Nous, on a un ministre qui ne nous veut pas, bien sûr, et qui ne nous défend pas au niveau européen, qui ne défend pas nos dossiers. Donc nous perdons tous les jours des dossiers parce que le ministère fait la politique de la chaise vide, parce que c'est idéologique, c'est totalement anormal. Nous sommes une activité légale dans une république et nous devons être défendus par notre ministre de tutelle. Ça devient très compliqué à gérer. Mais je crois que le Premier ministre et le Président de la République vont prendre ce dossier en main. Bon, effectivement, ils ont beaucoup, beaucoup de travail ces temps-ci et on n'est pas la priorité. Mais ça devient compliqué. Entre les réseaux sociaux et l'attitude de la ministre, ça devient très compliqué.
Ça devient compliqué. Vous êtes, je crois, 7000 chasseurs dans le Tarn et Garonne. Comment cette hostilité, elle se manifeste? Comment est-ce que vous la vivez sur le terrain?
Quand vous dites hostilité, vous savez, c'est une minorité de gens qui nous massacrent sur les réseaux sociaux. Mais alors, c'est un déversoir de haine, ces réseaux sociaux. Donc, les gens qui sont mignons la journée, le soir, devant leur écran, ils déversent leur haine là, sur l'écran. Donc, ça, il faut l'arrêter. On le voit pour autre chose, qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Donc là, il faut faire le ménage. Donc, nous, on n'a rien à cacher, on n'a rien à craindre. Et moi, je dis tout simplement à mes chasseurs, soyez fiers d'être chasseurs. Bien sûr, respectez les consignes de sécurité, respectez les autres usagers de la nature. Et nous sommes faits pour vivre ensemble. On le montre depuis très longtemps. Nos territoires, on y vit dedans, on est content d'y être. Et bien sûr qu'on aime le partager avec les autres.
Est-ce que ce sont deux visions de l'écologie qui s'opposent et qui se comprenneront décidément jamais, selon vous, Thierry Cabanne?
Mais pas du tout. Moi, j'ai beaucoup de dossiers en Tarn-et-Garonne avec des associations écologiques. On monte des dossiers ensemble, on va chercher des financements ensemble. La semaine dernière, j'ai reçu la nouvelle responsable d'Europe Écologie Les Verts qui est venue me voir parce qu'elle ne connaissait pas du tout la chasse et elle est venue comprendre. Je lui ai présenté tout ce que nous faisons. Je ne l'ai bien sûr pas convaincu de prendre le permis de chasse, ce n'était pas le but. Mais c'était de lui expliquer tous les travaux que nous faisions et effectivement, ils sont venus à deux, ils ont compris ce que nous faisions. Et je lui ai dit, dites à Jadot le futur candidat aux élections présidentielles, le seul mot d'ordre, lui, c'est d'interdire catégoriquement la chasse. Mais je sens que dans ses troupes, ça commence à avoir quelques fissures. Donc c'est là qu'il faut qu'on travaille à expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons tous les jours.
Eh bien, vous l'avez fait ce matin sur notre antenne. Merci beaucoup, Thierry Cabanne. Vous êtes le président, je le rappelle, de la Fédération de chasse du Tarn et Garonne, l'un des trois vice-présidents de la Fédération nationale des chasseurs. Nous parlions ensemble de l'hostilité grandissante à l'encontre des chasseurs et puis des conséquences du confinement sur la chasse. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel.
Merci à vous de nous avoir laissé la parole. Merci et bonne journée.